mobile et plus flexible. Je vous invite maintenant à poser toutes les questions que vous voudriez poser au général Comins. Nous avons aussi avec nous le général Tsar, qui est le numéro 2 de la police Unpol, et qui peut également répondre à vos questions. Nous allons prendre une première question à Kinshasa cette semaine, monsieur.
Guy Olume, RTNC2 Développement. Général Comics, pensez-vous que c'est stratégique et que Goma est maintenant pacifié? Il faut fermer les bases à l'heure actuelle où le terrorisme est déjà gangréné dans ce pays. Merci beaucoup.
Je souhaite tout d'abord dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent et souhaiter la bienvenue à tous nos camarades journalistes qui sont ici présents ou à Goma. Votre question est extrêmement importante et c'est, je pense, une belle manière de poser la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Vous avez dit deux mots, pacifier et terrorisme. Permettez-moi tout d'abord de dire que la mission de la MONUSCO est une mission de stabilité, comme l'indique MONUSCO, et que la pacification viendra au fur et à mesure que nous installons la stabilité. Deuxièmement, vous avez employé le mot de terrorisme. Je n'irai pas aussi loin. Le terrorisme est quelque chose qui est d'une autre nature que les actes violents, extrêmement regrettables, et que nous devons combattre, qui continue de se dérouler dans cette région. La zone de Goma, je dirais plus largement, la zone du Nord Kivu, est une zone où, vous savez, nous avons une implantation militaire extrêmement importante, avec en particulier une brigade complète, la brigade du Nord Kivu, et avec également d'autres éléments qui viennent travailler en soutien de cette brigade. Nous allons, comme vous l'avez évoqué, comme l'a dit la porte-parole de la MONUSCO, nous allons procéder à la fermeture d'un certain nombre de bases, plus précisément deux bases dans le Walikale, deux bases dans le Massissi et une base dans le Lubero. Parce que nous avons l'obligation de répondre au mandat qui nous a été donné et nous avons l'obligation d'atteindre le plafond d'effectifs qui nous a été autorisé. Donc cette fermeture des bases est une décision importante à laquelle nous ne saurons échapper, mais qui se traduira et qui a commencé déjà à se traduire pour nous par un nouveau mode de fonctionnement et par un certain nombre de mesures de manière à faire en sorte que l'absence permanente de casque bleu de la MONUSCO dans ses bases ne se traduise pas par un vide sécuritaire. Notre mission prioritaire reste la protection des civils en liaison étroite avec nos partenaires et camarades des forces armées congolaises, et également avec nos camarades de la police. Et donc, je pourrais revenir sur ce que nous envisageons de faire. Notre objectif reste inchangé. Nous avons un mandat, nous l'accomplirons. Certes, nous devrons quitter certaines zones. Nous ne le faisons pas de gaieté de cœur, c'est évident, mais nous faisons tout ce qu'il faut pour que notre présence soit assurée et que nous continuions d'avoir des relations extrêmement solides, non seulement avec les populations, mais également avec tous les acteurs qui, autour de nous, créent la stabilité et, je dirais, aident à la protection des populations.
Nous allons prendre une question à Goma, si vous le voulez bien. Goma?
Oui, merci Fabienne. Je voulais dire que nous avons aussi comme invité ici à Goma Monsieur Abdou Diako, qui est le chef de section affaires civiles, qui est là aussi pour parler de la protection civile au niveau des civils en matière par rapport à la fermeture des bases. Donc il est là aussi. Je vais donner la parole ici à gauche. Félix.
Merci beaucoup. Moi, c'est Patrick Félix Abeli. Pour Casse Info, on va nager sur la même question de la fermeture des bases. Vous dites que vous fermez ces bases pour la flexibilité et la mobilité, les changements des modes opérationnels. Cela veut dire qu'auparavant, vous n'avez pas été flexible et mobile.
Général,
c'est ça la question.
Oui, merci. Écoutez, j'apprécie effectivement le sens de votre question. Et je pense qu'il faut voir les choses peut-être sous une approche différente. Nous ne fermons pas ces bases pour avoir plus de flexibilité et de mobilité. Non, la fermeture de ces bases nous oblige à plus de flexibilité et plus de mobilité, de manière à être plus réactif et davantage d'avoir une capacité de réponse qui reste élevée vers des zones où nous ne nous sommes plus installés en permanence. Prenons le cas tout simple, par exemple, de la base de, je dirais, de Banyampuli. Eh bien, cette base qui est accessible par route, dans des conditions que vous connaissez, demain, nous n'y serons plus en permanence. Eh bien, si nous devons réagir, et nous avons l'obligation de continuer à réagir rapidement, si la situation l'exige, eh bien, nous emploierons d'autres moyens que ceux que nous avons eus jusqu'à présent, c'est-à-dire nous sommes présents. Eh bien non, demain, nous détacherons des détachements d'alerte rapide que nous avons en permanence, par hélicoptère ou par route, si la situation l'autorise, de manière à être toujours présent. Voilà, ce n'est pas la fermeture ce n'est pas pour être plus flexible qu'on ferme les bases. Non, non. C'est parce que nous allons partir que nous avons l'obligation de travailler de manière différente, d'adapter notre mode de travail. Voilà très simplement la réponse que je peux apporter à votre question, monsieur.
On va prendre une question à Kinshasa, monsieur. Voilà.
Oui, merci. Josué Foutila pour les comptes des Siloé Télévision. Cette même résolution qui vous dicte ou qui vous donne la possibilité de réduire les effectifs de la MONUSCO vous donne également la possibilité d'agir dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre. Je vous rappelle que l'accord est violé et vous informe que même la résolution 2348 est également violée. Lorsque vous traduisez ou vous faites le rapport chaque trimestre au Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'est-ce que vous reprenez exactement quant à la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre, d'autant plus que tous les deux documents sont violés.
Merci. Je suppose que cette question s'adresse à moi-même. Oui, effectivement, il y a le représentant secrétaire général fait un rapport et ce rapport est une description des faits. Qu'est-ce qui s'est passé entre le dernier moment où on a communiqué à New York et cette date-là? C'est les faits tels qu'ils se sont passés pendant cette période. Ou alors j'ai pas bien compris votre question. Je vous en prie.
Je pense que les directeurs de l'information publique est là et ils peuvent toutefois rajouter, mais mon inquiétude c'est à ces niveaux. Qu'est-ce que vous reprenez exactement quant à la mise en œuvre effective de cet accord et qu'est-ce que le Conseil de sécurité reçoit comme rapport?
C'est ce que je vous dis,
Et pour faire quoi après avoir reçu ce rapport?
C'est ces rapports qui permettent d'élaborer les résolutions du Conseil de sécurité. Donc le Conseil de sécurité sera informé des avancées et de la mise en œuvre cet accord de paix et prendra les décisions en conséquence. Voilà, c'est ça les informations. Si vous me demandez quelles informations il y a dans ce rapport, il y a le rapport de où en est-on de la mise en œuvre de l'accord. Vous suivez l'actualité, vous savez aussi où en est la mise en œuvre, c'est des faits que nous rapportons. Je vais prendre une question à Goma, s'il vous plaît.
Merci.
C'est Ouvert Rundi de la RTC Goma. Je m'adresse à la protection civile qui est ici, à Goma. Les militaires vont partir de Walikale, de Masisi et de Lubero. Quels sont les services qui vont garantir cette protection pour que les réactions de flexibilité dont on veut voir puissent être pratiques?
Merci. Merci Kinshasa. Je ne reviendrai pas sur ce que le général Bonnet dit sur la protection civile par les forces et surtout la nouvelle configuration. Si je reprends la question de ton collègue portant sur la flexibilité, cette nouvelle flexibilité ne veut pas dire que la MONUSCO n'était pas flexible. Mais plutôt la MONUSCO vaut mieux faire encore sur une autre forme, une autre méthode, une autre stratégie. Et mieux, ces bases, lorsque ces bases ont été implémentées, il n'est jamais dit que ces bases ne vont jamais partir. Non, toutes ces bases, c'est des bases temporaires. Donc, suivant la situation donnée, ces bases reforment la mission se reconfigure conformément à la nouvelle donne. Ceci dit, donc, ce n'est pas parce que la MONUSCO n'était pas flexible, mais parce que la MONUSCO vaut mieux faire avec une nouvelle stratégie, une nouvelle méthode. Revenant à votre question, ce que nous allons faire sur l'aspect civil. À la veille de l'annonce de la fermeture de ces bases, les sections civiles, en l'occurrence les affaires civiles, avec le soutien permanent de la section des droits de l'homme, nous avons conduit respectivement à Walikale, à Binyampouri, à Massissi et à Niabiendo, la section des affaires civiles donc et d'autres composantes de la MONUSCO avons effectué des missions dans chacune des bases qui doit fermer. Ces missions récentes ont évalué les risques potentiels de la protection et discuté avec la population des mesures à mettre en place conjointement avec les autorités locales pour assurer la protection de ces zones. C'est ainsi, par exemple, nous travaillons pour améliorer l'accès à ces zones en améliorant les routes. Exemple, Kichanga, Walikale, l'accès au réseau téléphonique et la radio Kapi, et l'antenne de la radio Kapi. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de négocier avec Vodacom pour essayer d'extendre le réseau téléphonique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des zones à risque où la population n'a pas d'accès au téléphone. En ce moment, nous sommes en train de négocier comment transférer certaines antennes d'une localité à l'autre pour une meilleure réception. Nous sommes en train de développer l'implémentation des antennes dans des zones qui n'ont jamais accès au téléphone. Ceci, c'est en coordination d'un système que nous avions mis en place 2010-2011, ce que nous appelons les alertes précoces communautaires. Les affaires civiles avaient inventé un système pour les zones qui n'ont pas d'accès, négocié avec des points focaux. À l'époque, même ces points focaux étaient des points focaux discrétionnaires. Dans la communauté, personne ne sait ce qui. Ils avaient un téléphone spécifique qui ne pouvait qu'appeler une base militaire la plus proche. Et c'est ainsi que les militaires parvenaient à aller dans ces zones à accès difficile où la population n'avait pas d'accès. Ceci dit, aussi, dans les endroits qui ont fermé, les affaires civiles vont pleinement impliquer avec nos partenaires du gouvernement, de la société civile, renforcer les mécanismes de coordination, par exemple, les comités locaux de protection, dans toutes ces bases qui forment. Nous avons ce que nous appelons comités locaux de protection. C'est des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont intéressés par la protection de leur communauté. Nous les avons formés, donc nous les avons rencontrés pour encore les sensibiliser par rapport à la fermeture de ces bases. Et tous ont accès à des numéros. C'est des numéros liés à la base, aux bases militaires. 24 heures sur 24, il y a quelqu'un qui va les répondre. S'il y a risque, nous prenons des mesures préventives, soit par la force, soit par FRDC, soit par NC, dépendant de la base ou de la force qui est plus près de cette zone et qui connaît mieux comment accéder à cette zone. À cela, il est très important, en conclusion, d'inviter les communautés qui continuent d'informer à temps la MONUSCO. Plus la MONUSCO est informée à temps, plus l'intervention est beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante. Pour l'instant, c'est là la réponse à votre question.
Merci. Oui, je vous rappelle quand même que cette émission est retransmise sur Radio Kapi, donc un niveau sonore bas dans la salle est bien meilleur pour les auditeurs. Donc pour ceux qui entendaient un petit peu mal la communication, je crois que c'est très très important de parler du rôle des communautés à partir du moment où la base n'est plus là en permanence. C'est que c'est un partenariat. La MONUSCO est là pour protéger les populations, mais les populations doivent aussi participer à cette protection en étant des alertes. Il y a personne n'est mieux informé que les gens qui sont sur place et qui peuvent informer à tout moment quand il y a un danger la force, et la force ne peut être efficace que si elle est bien informée. Voilà, je pense que j'ai résumé un petit peu ce que vous veniez de dire. On va prendre, j'avais promis une question ici.
Merci, c'est Venant Vaudissa pour la radio-télévision nationale congolaise. Ma question s'adresse au général. Mon général, fermeture des bases dans la partie est et aussi réduction sensible des effectifs jusqu'à 150 personnes ou éléments dans l'ensemble du, sur l'ensemble du territoire national. Pendant que le banditisme, ça on l'a déjà dit, il y a le banditisme urbain, il y a aussi, soi-disant, on ne sait pas quel terme utiliser, début de terrorisme. Où c'est le terrorisme qui prend encore dans notre pays. L'exemple le plus frappant, c'est l'assassinat de l'administrateur du marché central. Et c'est une contrainte de la part du gouvernement, cette réduction, ou c'est quelque chose de librement consenti de la part du Conseil de sécurité? Et surtout, est-ce le moment le mieux indiqué pour que vos éléments se retirent? Merci.
Oui, merci, monsieur, de votre question qui couvre un ensemble de sous-questions, je dirais, de points extrêmement intéressants. Tout d'abord, je vais juste rectifier, vous avez évoqué le chiffre de 150, d'accord, merci, ben, c'est exactement ce que j'allais préciser, c'est bien 750 soldats du bataillon indien qui vont quitter le pays au plus tard à la fin du mois prochain. Alors, vous évoquez une situation sécuritaire qui reste effectivement instable, et chaque région a sa propre dynamique, je dirais. Permettez-moi d'abord de souligner une fois encore que la première responsabilité de l'ordre et de la sécurité incombe aux forces de sécurité de ce pays. C'est d'abord les forces armées et les forces de police qui ont la responsabilité d'assurer la loi et l'ordre et la protection des citoyens de ce pays. Nous agissons en vertu du mandat, en appui, dans toute la mesure de nos capacités et de nos possibilités, en appui de nos partenaires militaires congolais. Et si nécessaire, le mandat le dit, si nécessaire, nous agissons seuls contre un groupe dont nous estimons qu'il faut mettre fin aux agissements. Alors vous évoquez la période. Est-ce que c'est le bon moment pour prendre ce genre de décision? Nous, MONUSCO, ici, nous n'avons pas choisi. Cette décision a été prise par nos représentants, les représentants du Conseil de sécurité, qui ont estimé, pour des raisons que je ne développerai pas, puisque tout ça, ça fait partie de ce qui est accessible dans les travaux et dans toutes les discussions qui ont lieu à New York, qui ont estimé qu'il était nécessaire que les forces de la MONUSCO décroissent. Notez que cette décroissance reste quand même limitée. Notez également que ce qui avait pu être dit il y a quelques années, ici même, par des autorités de ce pays souhaitant un départ, je dirais, plus important des forces de la MONUSCO, ce n'est plus d'actualité. Nous avons au contraire eu des autorités qui se sont exprimées en disant qu'elles souhaitaient ardemment que nos forces aient des capacités mieux adaptées à la mission qui leur est confiée. Et nous saluons bien évidemment ce soutien très important à nos côtés. Donc, est-ce que c'est le meilleur moment? On ne peut jamais dire que c'est le meilleur ou le moins bon moment. La situation que nous connaissons dans ce pays reste fragile, vous le savez. Nous faisons tout ce qu'il faut, chaque jour, pour apaiser les tensions. La force n'est pas le seul acteur. La force ne devrait être que le dernier acteur, quand vraiment il n'y a pas d'autre solution que de mettre fin à une violence que certains veulent perpétuer. Et donc, le meilleur moment, je ne peux pas répondre si c'est le meilleur ou le moins bon moment. Je dis que nous sommes à un moment de l'histoire de la MONUSCO où nous avons cette contrainte. Nous sommes à un moment de l'histoire de ce pays que vous connaissez, avec tout cet environnement sécuritaire et politique. Et nous devons faire face, nous, la force, mais également avec tous les partenaires qui sont autour de nous. Voilà. Donc, je n'irai jamais dire que la situation va se calmer demain matin. Nous, en revanche, avec nos camarades militaires, avec tous les organismes des Nations Unies qui travaillent à nos côtés et avec lesquels nous travaillons, avec toutes les organisations internationales qui travaillent ici, avec les autorités de ce pays, avec le gouvernement, les gouverneurs, les administrateurs territoriaux, au quotidien, je peux vous assurer, pour parler simplement, que nous mouillons notre chemise pour faire en sorte que le dialogue s'installe, que les difficultés foncières ou les litiges fonciers qui ont existé trouvent une solution, que les communautés qui se regardent un peu en chien de faïence, eh bien qu'elles trouvent des manières de dialoguer. Permettez-moi juste pour conclure sur ce point de saluer et d'insister sur le rôle éminent des femmes dans ce pays. Nous avons eu l'information qu'hier avait eu une réunion sous l'égide de la Synergie des Femmes Unies pour la Paix dans le Rutshuru. Eh bien, cette initiative, il faut la saluer et il faut les encourager. La visite actuelle de Madame Amina Mohamed, la vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, viendra souligner le rôle éminent des femmes. Et permettez-moi de lancer à nouveau, d'abord de souligner la qualité de leur action et de les remercier, mais également de les encourager à continuer à agir. Elles ont un rôle éminent dans ce pays et en Afrique.
Je voudrais passer maintenant la parole au général Sarr pour la partie de la question concernant la sécurité dans la ville de Kinshasa et les derniers événements.
Oui, merci bien. Donc, comme l'a si bien dit le général Cummins, la sécurité, quel que soit l'endroit où elle est requise, est d'abord du ressort du gouvernement congolais. Nous, police de la MONUSCO, nous sommes là en appoint, c'est-à-dire nous sommes une force d'appoint, une force qui est là pour renforcer. Et quand je parle de renfort, je parle plutôt de renforcement de capacité, et aussi, mais de capacité à intervenir, mais aussi de capacité à respecter les normes d'engagement, de capacité à respecter la mise en œuvre de tout ce qui est stratégie pour veiller à la préservation de la sécurité des personnes, mais aussi et surtout pour respecter les droits de l'homme, les droits humains. Donc c'est ça notre mission. Nous n'avons pas une mission de réaction et une mission disons un peu d'engagement en tête de liste. Nous ne sommes pas comme la force, nous n'avons pas un mandat exécutif. Nous avons un mandat de renforcement de capacité, nous avons un mandat d'instruction, un mandat d'orientation et un mandat aussi de surveillance si l'orthodoxie est respectée, si l'ordre et la loi sont respectés, si aussi les libertés humaines et les libertés individuelles sont préservées.
Je vais passer la parole à un journaliste à Goma, s'il vous plaît.
C'est M. Okito Papi du journal Écho d'Opinion. Ma question, je la pose au général. Mon général, au moment où la population congolaise demandait à la MONUSCO de partir, la MONUSCO faisait la sourde oreille. Mais aujourd'hui, vous choisissez un bon, je ne sais pas si un bon ou mauvais moment, de partir et de laisser ce contrée-là dans la désolation où le groupe Zané sème la terreur. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que vous avez fait une bonne chose ou une mauvaise chose? Merci.
Général.
Oui, merci de rappeler à nouveau que, Dieu merci, nous sommes restés, nous avons fait la sourde oreille. Au cas contraire, nous n'aurions pas été à plus de 16 000 comme c'est le cas aujourd'hui. Nous n'avons pas la même lecture que vous de la situation, entre guillemets, que nous laissons. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons déjà eu à fermer des bases précédemment. Nous avons fermé pratiquement 9 bases ou détachements temporaires dans l'année qui s'est écoulée. Et donc, nous avons pu observer que notre départ n'a pas entraîné un surcroît de violence ou une résurgence de la violence telle qu'elle existait précédemment. Parce que si nous nous sommes installés à un endroit, c'est parce que la violence existait et que notre présence a permis de stabiliser la région. Donc nous avons plusieurs exemples. Je pense à Pinga, je pense à Kachébéré, je pense à Katalé, à d'autres zones que nous avons quittées, mais où nous continuons d'être présents de manière moins permanente et nous n'avons pas observé une résurgence de la violence. Eh bien, c'est la même chose pour les bases que nous nous apprêtons à quitter. Nous l'avons fait après une étude très sérieuse de la situation sécuritaire, je dirais, autour de ces régions. Nous n'avons pas affaire à une menace dans ces zones similaire à celle qui existe dans l'Est, le long de la frontière, avec des groupes armés très violents que vous connaissez et qui sont vraiment des groupes armés. Là, c'est plutôt des violences intercommunautaires, sur fond de litiges fonciers, sur fond de désaccords ou de volonté de pouvoir par tel ou tel groupe ou responsable de groupe. Nous savons également que nous avons des forces armées congolaises qui sont dans cette région, qui sont dans ces zones, et nous connaissons le dispositif de nos camarades congolais, que je n'ai pas de raison de dévoiler ici. Et donc, tous ces éléments ont été pris en compte. et ont contribué à notre réflexion et à la décision, finalement, de fermer les bases dont on a parlé tout à l'heure. Vous parlez de désolation, le terme n'est pas adapté. On n'est absolument pas dans une situation de désolation et nous faisons au contraire tout ce qu'il faut pour que les populations de ces régions continuent de trouver les conditions de vie auxquelles elles ont droit.
Merci. On va prendre une question ici. Juste devant toi. Voilà. Merci.
Merci. Moi, c'est Flavien Msens pour le compte de Planète Télévision. Mon général, vous êtes le général des forces de la MONUSCO. Et vous aussi, vous êtes général de la police de la MONUSCO. Quelle est votre réaction aujourd'hui de la nomination d'un général d'armée à la tête de la PNC?
Écoutez, merci monsieur. Je n'ai aucune légitimité à commenter une décision qui est souveraine. Je n'ai rien d'autre à ajouter.
On va prendre une question à Goma, chacun son tour. Goma, une question?
Alors, je vais donner à un soyeur.
Oui. Merci beaucoup. Pouvez-vous m'aider à traduire ma question dans ma langue nationale, le swahili, s'il vous plaît? C'est très important. Ok. Eh bien, nataka unisaidie kwa ndugu zangu wa MONUSCO. Na swali langu linasema ifuatavyo. Vita, kolera, uchaguzi, ukimbizi, usalama mdogo. Na watu wanaendelea kuchukuliwa mahali pasipojulikana.
Ma question est la suivante.
Il se manifeste la guerre, le choléra et le déplacement des personnes.
Et les élections.
Ok.
Cette émission est diffusée au niveau national. En général, nous la faisons en français. Est-ce que vous pouvez vraiment raccourcir vos questions et être très direct?
Ok, direct, c'est-à-dire quoi? Watatusaidia sisi wa
kumani. Quelle question voulez-vous poser?
Watatuponesha, voilà.
Quelle sera l'appui ou l'aide de la communauté de la MONUSCO dans tout ça? La guerre, les enlèvements, le choléra, quel est votre apport face
pour les élections? D'accord, bien compris. Vous parlez de la contribution des Nations Unies à la lutte contre le choléra? Écoutez, on en a largement parlé en début de conférence de presse. C'est une approche holistique, puisqu'il y a à la fois les agences qui s'occupent de l'assainissement, des questions sanitaires, des questions médicales, et la MONUSCO qui apporte la logistique. On l'a détaillé tout ça. Si vous voulez y revenir, de toute façon, vous aurez à disposition le compte-rendu de cette conférence de presse après qu'elle soit terminée. Je vous remercie. On va prendre ici une question à Kinshasa, là-bas, monsieur. Monsieur là, avec la cheveux.
Merci. Kioni Kibungu, RTGA. Hier, un acteur politique qui s'appelle Germain Kambinga a rencontré Vital Kamerhe, l'opposant. Il estime que la sortie à la crise actuelle, c'est cette rencontre entre Kabila, Félix Tshisekedi, Kamerhe Katumbi. Quelle est la réaction de la MONUSCO? Et puis d'un côté, on voit l'opposant du Palou, l'élu du Palou, comment il s'appelle encore, qui estime que il faudrait qu'il y ait un troisième dialogue sous l'égide de l'ODU. Voilà, Mouzitou, qui estime qu'il faut qu'il y ait un troisième dialogue. Oui. Quelle est la réaction de la MONUSCO?
Merci de cette question, mais là vous allez me faire répéter ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire que nous, on a un mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité. Dans ce mandat, il est demandé à la MONUSCO de veiller à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Tant que nous sommes liés par ce mandat, nous attachons à cette tâche-là, qui est la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Si toutefois les acteurs qui ont signé cet accord venaient à décider autre chose, nous verrons. Mais pour le moment, nous sommes liés à l'exécution de ce mandat qui précise qu'on doit mettre en œuvre cet accord du 31 décembre. Donc je ne pourrais pas commenter au-delà de cette remarque. Je vais reprendre une question à Goma, mais ça va être probablement la dernière. Il nous reste 6 minutes. On a encore 2 questions. Goma, à vous.
Oui, je m'appelle Alain Lamé, je suis journaliste indépendant. J'adresse ma question à Florence Marchal. Que fait les humanitaires pour la reprise rapide des activités agricoles dans le Kasaï, de peur que nous ne puissions pas subir encore une crise alimentaire. Le PAM, FAO et PNUD.
Oui, en effet, nous avons de graves préoccupations concernant la situation sur la sécurité alimentaire dans la région du Kasaï. Deux récoltes ont déjà été sautées en raison du conflit et de la crise qui prévalent dans cette grande partie du pays. Et de nombreuses personnes sont maintenant dans cette région en situation d'insécurité alimentaire. On vous l'a dit au début de cette conférence de presse, nous avons actuellement des visites de haut niveau ici en République démocratique du Congo. Et hier, le chef de l'assistance humanitaire des Nations Unies, M. O'Brien, est arrivé à Kinshasa et il va se rendre d'ici la fin de la semaine dans le Kasaï. L'objectif de cette visite, c'est de sensibiliser et de mobiliser les opinions publiques dans le monde entier à ce qui se passe dans le Kasaï afin de pouvoir faire un plaidoyer pour pouvoir obtenir les fonds qui permettront de venir en assistance à toutes les personnes. Alors sinon, vous l'avez dit, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, avec les moyens qu'ils ont à leur disposition ici en RDC, ont développé des projets, notamment avec les femmes, pour pouvoir leur permettre de ils leur ont distribué des intrants, donc des semences, des instruments, des outils aratoires pour pouvoir cultiver. Mais ce n'est pas suffisant, nous en sommes conscients. Comme on l'a dit, notre plan de réponse humanitaire à ce jour n'est financé qu'à 23%. Donc la priorité pour nous, c'est de faire d'abord du plaidoyer, d'obtenir des financements et ensuite nous pourrons intervenir.
Je vais prendre une question ici à Kinshasa, monsieur, tout au bout de la salle.
Merci beaucoup. Je m'appelle Jean-Pierre Tshisekedi. Je suis éditeur du journal Multimedia News. Bon, ma préoccupation, je rentre aussi au Kasaï pour demander à la MONUSCO, c'est au porte-parole militaire, combien de bases avez-vous installées aujourd'hui au Kasaï? Combien de groupes armés s'y sont identifiés qui opèrent dans le Kasaï aujourd'hui? Et ils sont où? Porte-parole civile, une petite question de curiosité. Que serait devenu votre collègue Bass après tout ce qui s'était passé, le refoulement, le retour? Il a quitté la MONUSCO? Oui, il est encore avec vous. Merci.
Juste par une précision, le général n'est pas le porte-parole militaire. Hein. Il est le numéro 2 de la force et il vient aujourd'hui répondre à nos questions. Le porte-parole militaire est à Goma, c'est le colonel Hag. Quant au colonel Bass, merci de prendre de ses nouvelles. Il va très bien et il est appelé à de nouvelles fonctions au sein de la MONUSCO qu'il prendra très prochainement et je pense qu'il vous annoncera lui-même très bientôt dans quelles fonctions il va agir, toujours au service de la mission.
J'ai très peu de temps, il est 58. Actuellement, et fonctionne depuis plusieurs mois déjà, quatre bases, je dirais, dans le Kasaï, Kananga, Chimbulu, Luisa, Bolungu. Ce sont des détachements d'un effectif réduit, et l'objectif que nous avons, c'est que ces détachements vont quitter, à un moment, la zone où elles se trouvent, pour se déplacer un peu et continuer à élargir, je dirais, ce périmètre de stabilité que nous avons créé. C'est l'idée, et c'est ce que nous ferons. Aujourd'hui, sont arrivés à Chikapa un nouveau détachement. Et ce détachement, c'est le précurseur d'un détachement un peu plus important. Nous souhaitons ouvrir deux bases dans la région du Kasaï, Chikapa, et puis une autre région que nous allons déterminer. Là encore, ce sont des effectifs très réduits. Et puis ensuite, nous avons Bujimai, un détachement qui est arrivé il y a déjà quelques jours, qui est installé à Bujimai et qui lui aussi va préparer l'ouverture d'une position supplémentaire. Donc vous voyez, nous sommes aujourd'hui à 4 plus 2, ça fait 6 bientôt. Il sera difficile d'aller beaucoup plus loin, mais nous serons mobiles et nous serons présents.
Je vous remercie beaucoup. Non, je suis désolée, nous avons rendu l'antenne, donc je vous remercie, Général Comines et Général Sarr, d'avoir été parmi nous. Au revoir aux journalistes de Goma et merci aux auditeurs de Radio Capi. À la semaine prochaine.